Chapitre 23. Les bêtes fauves ont un privilège de chasse et, avant de lancer nos meutes, nous donnons aux cerfs un espace réglé par les lois. Mais le renard, qui trouverait à redire à la façon dont il a été pris ou tué? Walter Scott, La Dame du Lac. Il est rare que les campements des Indiens soient gardés, comme ceux des Blancs, par des sentinelles armées. Averti par son instinct de l'approche du danger lorsqu'il est encore éloigné, l'Indien en général se fie à la connaissance qu'il a des signes de la forêt et à l'étendue ainsi qu'à la difficulté des lieux qui le séparent de ceux qu'il a le plus à craindre. L'ennemi qui, par un heureux concours de circonstances, a trouvé moyen d'éluder la vigilance des éclaireurs, est à peu près assuré de ne pas trouver autour des habitations de vedettes pour donner l'alarme. En outre de cette habitude générale, les tribus amies de la France connaissaient trop bien l'importance du coup qui venait d'être frappé pour appréhender aucun danger immédiat de la part des nations hostiles tributaires de la couronne britannique. Duncan et David arrivèrent donc au milieu des enfants qui jouaient, comme nous l'avons dit, sans que rien n'eût annoncé leur approche. Mais aussitôt qu'elle les aperçut, toute la bande joyeuse poussa, d'un accord tacite, un cri d'effroi et d'avertissement à la fois, et disparut comme par enchantement. Les corps nus et basanés de ces enfants se confondaient tellement, à cette heure du jour, avec les hautes herbes où ils étaient cachés, qu'on eût dit de prime abord que la terre les avait engloutis. Revenu de sa première surprise, Duncan, en regardant autour de lui, rencontra partout des yeux noirs et vifs qui ne le perdaient pas de vue, présage peu rassurant et qui n'était guère propre à encourager le major sur la nature de l'examen qu'allait probablement lui faire subir la prudence plus avisée des hommes. Aussi eut-il un moment où il n'eût pas été fâché de battre en retraite. Par malheur, il était trop tard pour manifester la moindre apparence d'hésitation. Les clameurs des enfants avaient attiré une douzaine de guerriers sur le seuil de la hutte la plus proche. Là, un groupe à l'air rébarbatif attendait gravement la venue de ses hôtes inattendus. David, déjà familiarisé en quelque sorte avec de semblables scènes, ouvrit la marche et se dirigea vers cette même hutte avec une assurance qu'il n'eût pas été facile de déconcerter. C'était le principal édifice du village, bien qu'il ne fût construit que d'écorce et de branches d'arbres. La tribu y tenait ses conseils et ses assemblées publiques pendant sa résidence temporaire sur les confins de la province anglaise. Il fut difficile à Duncan de conserver son masque d'indifférence lorsqu'il fut obligé de coudoyer en passant les robustes sauvages qui étaient attroupés devant la porte. Mais, convaincu que sa vie dépendait de sa présence d'esprit, il s'abandonna à la discrétion de son compagnon, dont il emboîta le pas et s'efforça, tout en marchant, de raffermir ses esprits. Au premier contact avec ces êtres sanguinaires, il eut froid au cœur et son sang se figea dans ses veines. Puis il fut assez maître de lui pour s'avancer jusqu'au centre de la loge, sans laisser voir sur son visage aucun reflet de ses appréhensions. Suivant l'exemple du brave David, il s'approcha d'une pile de branches odoriférantes entassées dans un coin et y prit un fagot sur lequel il s'assit en silence. Dès que le nouveau venu fut passé, les guerriers qui l'avaient suivi des yeux quittèrent le seuil et entrèrent à leur tour. Puis, se rangeant autour de lui, ils semblèrent attendre avec patience le moment où la dignité de l'étranger lui permettrait de parler. La plupart étaient nonchalamment appuyés contre les poteaux qui supportaient le fragile édifice, tandis que trois ou quatre des chefs les plus vieux et les plus renommés s'étaient assis, selon leur coutume, à terre et un peu en avant des autres. Une torche brûlait dans ce lieu, et sa flamme aveuglante, que l'air faisait vaciller, jetait des reflets rougeâtres tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre de ses farouches physionomies. Duncan en profita pour essayer de pressentir, par un coup d'œil furtif, à quel accueil il devait s'attendre. Les chefs, placés sur le devant, affectant de le remarquer à peine, tenaient leurs yeux fixés à terre dans une attitude qui tenait plus de la défiance que du respect. Les guerriers qui se trouvaient dans l'ombre et sur un plan reculé montraient moins de réserve. Duncan s'aperçut bientôt que leur regard pénétrant étudiait à la dérobée sa personne et son attirail. En réalité, rien n'échappait à leur observation et à leurs commentaires. Ni un tressaillement, ni un geste, ni le moindre détail du tatouage ou du vêtement. Enfin, un Indien aux cheveux grisonnants, mais dont les membres musculeux et la démarche ferme annonçaient toute la vigueur de l'âge mûr, sortit d'un retrait où il s'était probablement dissimulé pour faire ses observations sans être vu, et prit la parole. Comme il s'exprimait dans la langue des Wyandots ou Hurons, son discours demeura inintelligible pour celui à qui il l'adressait. Aussi Duncan n'en retint-il qu'une chose, le ton du débit encore plus poli qu'irrité. Et, secouant la tête, il indiqua par un geste qu'il lui était impossible de répondre. « Aucun de mes frères ne parle-t-il français ou anglais ?» dit-il dans la première de ses langues, en promenant ses regards d'une figure à l'autre, dans l'espoir de voir quelqu'un faire un signe affirmatif. Plusieurs des assistants tournèrent vers lui la tête, comme pour saisir le sens de ses paroles, mais il n'obtint pas de réponse. « J'aurais regret à croire, » continua Duncan, avec une prononciation lente et en employant les termes français les plus simples qu'il put trouver, « que dans cette nation sage et brave, nul ne comprend la langue dont le grand monarque fait usage quand il parle à ses enfants. » Il aurait un poids sur le cœur s'il savait que ses guerriers rouges ont si peu d'égard pour lui. Il y eut alors un long silence, pendant lequel aucun mouvement du corps, aucun trait du regard ne trahit l'impression produite par cette observation. Le major, qui savait que l'art de se taire était une vertu chez ses hôtes, mit volontiers à profit cet usage afin de coordonner ses idées. À la fin, le même guerrier qui lui avait d'abord adressé la parole lui demanda sèchement dans le français du Canada « Quand le monarque, notre grand-père, parle à son peuple, est-ce avec la langue d'un Huron ? Il ne fait aucune différence entre ses enfants, que la couleur de leur peau soit rouge, noire ou blanche, » répondit Duncan d'une manière évasive. « Mais il fait un cas tout particulier des braves Hurons. Comment parlera-t-il quand les coureurs lui conteront les chevelures qui poussaient, il y a 5 nuits, sur la tête des Anglais ?»« Ils étaient ses ennemis, » dit Duncan avec un tressaillement involontaire. « Et sans doute il dira, c'est bon, mes Hurons sont des vaillants. »« Ce n'est pas ainsi que pense notre père du Canada. Au lieu de regarder devant lui pour récompenser ses Indiens, c'est en arrière qu'il se tourne. » Il voit les Anglais morts et non les Hurons. Que veut dire cela? Un grand chef comme lui a plus d'idées que de langues. Il veille à ce que nul ennemi ne suive ses traces. Le canot d'un guerrier mort ne flottera plus sur l'Horican, répliqua le sauvage d'un air sombre. Les oreilles du grand chef sont ouvertes de lawares qui ne sont pas nos amis, et ils les remplissent de mensonges. Cela ne peut être. Voyez, il m'a ordonné, à moi, qui suis instruit dans l'art de guérir, d'aller trouver ses enfants les Hurons rouges des grands lacs et de leur demander s'ils ont des malades parmi eux. » Un nouveau silence suivit la déclaration de la qualité que le major venait de prendre. Tous les yeux se portèrent à la fois sur sa personne, comme pour juger de la vérité ou de la fausseté de sa parole, avec un air d'intelligence et de perspicacité qui le fit trembler pour la suite de cet examen inquisiteur. Heureusement, le premier interlocuteur reprit la parole. « Les hommes sages du Canada ont-ils l'habitude de peindre leur peau ? » demanda-t-il froidement. « Nous les avons entendus se vanter d'avoir le visage pâle. »« Quand un chef indien vient parmi ses pères blancs, » reprit Hayward avec beaucoup d'assurance, « il quitte sa blouse de buffle pour prendre la chemise qu'on lui offre. Mes frères m'ont donné cette peinture et je la porte. » Un murmure d'approbation annonça que ce compliment adressé à la tribu était favorablement accueilli. Le vieux chef fit un geste de satisfaction. Son exemple fut suivi par la plupart des guerriers qui étendirent une main comme lui et poussèrent leur exclamation favorite. Duncan commença à respirer plus librement, dans la persuasion que le plus fort de l'interrogatoire était fini. Et comme il avait déjà arrangé une histoire simple et vraisemblable à l'appui de sa profession prétendue, ses espérances de réussite augmentèrent. Un autre guerrier s'avança. Après s'être recueilli un instant afin de faire une réponse convenable à la déclaration de leur hôte, il prit l'attitude d'un orateur. À peine avait-il ouvert la bouche qu'il s'éleva de la forêt un bruit sourd mais inquiétant, suivi de clameurs perçantes et prolongées de manière à ressembler au plaintif hurlement d'un loup. À cette interruption soudaine, Duncan se leva et l'impression terrible qu'il éprouva lui fit oublier tout le reste. Au même instant, tous les hurons s'élancèrent au dehors et bientôt éclata dans l'air un vacarme épouvantable. Notre jeune aventurier fut incapable d'y résister plus longtemps. Il sortit à son tour et se trouva au milieu d'une foule désordonnée qui réunissait presque tout ce qui était doué de vie dans le village. Hommes, femmes, enfants, vieillards, invalides, jeunes gens, tout le monde était sur pied, les uns vociférant à tue-tête, les autres battant des mains avec une joie frénétique, tous exprimant leur satisfaction féroce de quelque événement inattendu. La scène qui suivit donna presque aussitôt au major l'explication de cet horrible tumulte. Il restait encore assez de clarté dans les cieux pour qu'on pût distinguer entre les arbres les espèces d'avenues par lesquelles les différents sentiers venaient aboutir dans la clairière. On en vit sortir une longue file de guerriers qui s'avançaient en procession vers le village. Celui qui marchait en tête portait une perche à laquelle étaient suspendues plusieurs chevelures humaines. Les sons effrayants que le major avait entendus étaient ce que les Blancs ont appelé, avec raison, le cri de mort, et chaque répétition de ce cri avait pour but d'annoncer à la tribu la mort d'un ennemi. Ce qu'Hayward connaissait des usages des Indiens l'aida à trouver cette explication. Sachant désormais que ce sabbat d'enfer avait pour cause le retour imprévu d'une troupe partie en expédition, ses angoisses se calmèrent, et il se félicita intérieurement d'une circonstance grâce à laquelle il pouvait espérer qu'on ferait moins d'attention à lui. À une centaine de pas du village, les nouveaux venus firent halte. Ils avaient entièrement cessé de pousser le cri plaintif et féroce qui avait pour but tout à la fois de gémir sur les morts et de célébrer les vainqueurs. L'un d'eux, s'étant détaché du reste de la troupe, se mit à discourir à haute voix. C'était une sorte d'invocation mélancolique au trépassé, bien qu'ils ne pussent pas entendre ces paroles plus que les hurlements qui avaient retenti auparavant. Ce fut ainsi que la victoire de l'expédition fut annoncée à la tribu. Il serait difficile de donner une idée de l'explosion d'allégresse qui accueillit cette nouvelle. Tout le camp devint un théâtre de désordre et de commotion violente. Les guerriers tirèrent leurs coutelas, les brandirent en l'air et se rangèrent sur deux lignes qui s'étendaient parallèlement depuis l'endroit où les vainqueurs s'étaient arrêtés jusqu'au village. Les femmes saisirent des bâtons, des haches, tout ce qui leur tomba sous la main, et s'avancèrent avec ardeur pour prendre part au cruel divertissement qui se préparait. L'enfance elle-même n'en demeura pas exclue. De petits garçons arrachaient de la ceinture de leur père les tomahawks qu'ils avaient à peine la force de soulever et se glissaient entre les guerriers, dociles imitateurs de leurs sauvages parents. De grands tas de broussailles avaient été amoncelés dans la clairière et des vieilles étaient en train d'y mettre le feu pour éclairer le spectacle qui allait se passer. Quand la flamme s'en éleva, elle éclipsa les dernières lueurs du crépuscule et contribua à rendre les objets à la fois plus distincts et plus hideux. Tout cela formait un tableau imposant auquel la ceinture sombre des grands pins servait de cadre. Sur le plan le plus éloigné étaient rangés en demi-cercle les guerriers qui venaient d'arriver. À quelques pas en avant se tenaient deux hommes qui semblaient destinés à remplir un rôle à part. La lumière n'était pas assez forte pour qu'on pût distinguer leurs traits, et cependant on voyait qu'ils étaient animés d'émotions toutes différentes. L'un, droit et ferme, était prêt à subir son destin en héros. L'autre baissait la tête, comme frappé de terreur ou en proie à la honte. L'audacieux Duncan se sentit épris d'admiration et de pitié pour le premier, bien qu'aucune occasion ne pût lui être offerte de manifester ses généreuses sympathies. Malgré tout, il suivait d'un œil ému ses moindres mouvements, et en contemplant ses membres robustes et ses belles proportions, il cherchait à se persuader que, s'il était au pouvoir de l'homme secondé par un courage intrépide, de sortir sain et sauf d'un si grand péril, le jeune captif qu'il avait sous les yeux pouvait espérer de triompher dans la course fatale à laquelle on allait le soumettre. Peu à peu, il s'approcha davantage des Hurons, et il pouvait à peine respirer, tant était vif l'intérêt qu'excitait en lui ce spectacle. On donna le signal de l'épreuve imposée aux prisonniers, et l'intervalle de silence qui l'avait précédé fut rompu par une explosion de hurlements qui surpassa tout ce qu'on avait encore entendu. La plus faible des deux victimes ne bougea de place, mais l'autre se mit à bondir avec la légèreté et la vitesse d'un daim. Au lieu de se jeter à travers les rangs ennemis, comme on s'y attendait, il entra dans l'espèce de défilé que formaient les Hurons rangés sur deux lignes, et avant qu'un seul coup pût l'atteindre, il se détourna brusquement, sauta par-dessus une troupe d'enfants, et gagna aussitôt le front extérieur de l'armée en bataille, et par conséquent celui qui présentait le moins de danger. À ce subterfuge, l'air retentit d'imprécations, les rangs furent rompus, et la multitude irritée se dispersa dans un indicible désordre. Une douzaine de foyers en flammes répandaient sur le lieu de la scène une clarté rougeâtre qui lui prêtait l'apparence d'une fantastique arène où une troupe de démons se serait rassemblée pour accomplir leur effroyable sabbat. Les figures qu'on entrevoyait dans la pénombre ressemblaient à d'infernales apparitions, s'agitant, se bousculant, se démenant avec des contorsions et des gestes frénétiques. Quant à celles qui passaient devant les brasiers, la lumière faisait ressortir entre hideux la colère et la haine qui les transportaient. Un tel concours d'ennemis acharnés ne laissa pas aux fugitifs le temps de respirer. Il y eut un moment où l'on put craindre qu'il ne réussît à gagner la forêt, mais ceux qui l'avaient fait prisonnier se jetèrent tous ensemble au-devant de lui et le refoulèrent au centre de la clairière. Se retournant alors comme un daim qui voit le chasseur en face, il s'élança avec la rapidité d'une flèche à travers les flammes d'un bûcher, et après avoir dépassé sain et sauf la multitude, il parut à l'extrémité opposée de la clairière. Là également, il fut repoussé par quelques vieux hurons des mieux avisés. Une fois encore, il se perdit dans la mêlée, comme si elle eût pu lui fournir un moyen de salut, et quelques instants s'écoulèrent pendant lesquels Hayward crut que l'agile et courageux jeune homme avait définitivement succombé. On ne distinguait plus qu'une masse obscure de figures humaines ballottées çà et là dans une confusion inexprimable. Au-dessus d'elle, on voyait reluire le fer des couteaux et des haches et se balancer les massues formidables. Mais les coups ne portaient point et l'on continuait de frapper au hasard. Les cris perçants des femmes et les farouches hurlements des guerriers ajoutaient encore à l'horreur de ce spectacle. De temps en temps, Duncan entrevoyait un corps léger qu'un bond prodigieux soulevait en l'air, et il se reprenait à espérer que le coureur n'avait rien perdu de sa vigueur. Tout à coup, la foule, rejetée en arrière, s'approcha de l'endroit où il était resté. Un mouvement rapide porta les Hurons nouveaux venus à traverser un groupe de femmes et d'enfants qui tombèrent et furent foulés aux pieds. En pleine bagarre, Duncan vit reparaître le captif. Les forces humaines ne pouvaient bien longtemps encore soutenir une pareille épreuve, et le malheureux semblait en être convaincu. Profitant d'une ouverture dans les rangs des guerriers, il s'y précipita et fit un effort désespéré, et que Duncan jugea devoir être le dernier pour gagner la forêt. Comme s'il eût connu qu'il n'avait rien à craindre de la part de l'officier anglais, le fugitif passa si près de lui qu'il effleura ses vêtements. Un gigantesque huron, qui venait de prendre son élan, le serrait de près et levait déjà le bras pour asséner un coup fatal. Duncan allongea le pied et d'un croc en jambe précipita le sauvage, la tête la première, à quelques pas de celui qu'il voulait immoler. Le prisonnier profita de cet avantage avec la rapidité de la pensée. Il fit volte-face et disparut comme un météore. Saisi d'étonnement, le major, en cherchant à savoir ce qu'il était devenu, l'aperçut tranquillement appuyé contre un poteau peint de diverses couleurs, placé à l'entrée de la principale cabane ou loge du conseil. Craignant que la part indirecte qu'il avait prise au salut du fugitif ne lui devînt fatale à lui-même, Duncan s'empressa de changer de place. Il suivit la foule, qui revenait avec un air sombre, comme l'est toute populace qui se voit privée d'une exécution dont on lui avait promis le sanglant spectacle. La curiosité, ou peut-être un sentiment meilleur, l'engagea à s'approcher de l'étranger. Il le trouva debout, le bras passé autour du poteau qui faisait sa protection. Sa respiration était rauque et haletante après les incroyables fatigues qu'il avait subies, mais il dédaignait de laisser voir le plus léger signe de souffrance. Un usage immémorial et sacré interdisait de toucher à sa personne jusqu'à ce que le conseil de la tribu eût décidé de son sort. Mais le résultat de la délibération n'était pas douteux, en juger par les sentiments de la cohue dont la place était encombrée. Tout ce que le vocabulaire des Hurons contient de termes injurieux, les femmes désappointées le prodiguaient à l'étranger qui s'était soustrait à leur cruel traitement. Elles insultaient à son courage et lui disaient, avec des railleries amères, que ses pieds valaient mieux que ses mains et qu'il avait mérité des ailes puisqu'il ignorait l'usage de la flèche et du couteau. À tout cela, le captif ne répondait rien, se bornant à conserver une attitude qui offrait un singulier mélange de dignité et de mépris. Exaspérée de son sang-froid autant que de son heureuse fortune, la parole des mégères s'embrouilla au point d'être inintelligible et la rage leur fit pousser d'affreux hurlements. Une des vieilles qui avait allumé les feux se fraya un passage à travers la foule et vint se camper en face du prisonnier. À la vue de cette sorcière aux traits décharnés et à peine vêtue de loques sordides, on ne se trompait guère en lui supposant une méchanceté surhumaine. Rejetant sur l'épaule un semblant de vêtement, elle étendit son bras long et osseux et se servant de la langue de l'awar, comme plus accessible à l'objet de ses outrages, elle commença ainsi en élevant la voix. « Écoute-moi, de l'awar !» dit-elle en frappant de ses doigts la figure du prisonnier. « Ta nation est une race de femmes, et la bêche convient mieux à vos mains que le fusil. Vos femmes donnent le jour à des daims, mais si un ours, un chat sauvage ou un serpent venait à naître parmi vous, vous prendriez tous la fuite. Les filles des Hurons te feront des jupes et nous te trouverons un mari. » Cette insultante apostrophe fut accueillie par de grands éclats de rire, explosions de gaieté violente, où les voix fraîches et mélodieuses des jeunes femmes se mariaient étrangement aux grognements et aux criailleries des méchantes vieilles. Et fort impuissant, le captif, supérieur à une telle attaque, demeurait immobile et la tête haute. On eût dit qu'il se croyait seul, excepté lorsque son regard fier et hautain errait sur les guerriers qui se promenaient à quelque distance, observateurs sombres et silencieux de tout ce qui se passait. Furieuse d'avoir manqué son but, la mégère mit ses poings sur ses hanches et, prenant une attitude de défi et d'insulte, elle vomit un torrent d'invectives dont nous essayerions en vain de reproduire l'infinie variété. Toute cette dépense de mots fut inutile, et quelle que fût sa réputation dans la science de l'injure, le prisonnier lui laissa répandre sa fureur jusqu'à ce que l'écume lui vint à la bouche, mais pas un seul muscle ne tressaillit sur sa figure. Tant d'indifférence parut faire impression sur les autres spectateurs. Un adolescent qui, sortant à peine de l'enfance, venait d'être admis au nombre des guerriers, voulut venir en aide à cette furie en brandissant son tomahawk devant la victime et en ajoutant ses bravades aux railleries de la vieille. Alors seulement, le prisonnier tourna son visage vers la lumière et laissa tomber sur le jeune tourmenteur un regard où il y avait quelque chose de plus que du mépris. Puis il reprit son attitude de calme recueillement. Mais son changement de posture avait permis à Duncan de reconnaître Uncas, le jeune Mohican. La surprise lui ôta presque la faculté de respirer, et la situation critique du jeune chef le plongea dans un pénible accablement. Aussi détourna-t-il les yeux, de crainte que leur expression trop significative ne contribuât à hâter le sort du prisonnier. Néanmoins, rien encore ne justifiait de telles appréhensions. L'exaspération de la foule était loin de se calmer quand un Huron, s'ouvrant brutalement un chemin et poussant de côté la meute des enfants et des femmes, prit Uncas par le bras et le fit entrer dans la loge du conseil. Il y fut suivi par tous les chefs et les plus illustres guerriers, au nombre desquels Hayward, dévoré d'inquiétude, trouva moyen de se glisser sans attirer sur lui une attention qui aurait pu être funeste. Les sauvages employèrent quelques minutes à prendre place, chacun selon son rang et l'influence dont il jouissait dans la tribu. On observa un ordre à peu près semblable à celui qui avait été adopté dans la réunion précédente. Au milieu de la salle spacieuse et sous la lumière éclatante d'une torche, s'assirent les vieillards et les chefs principaux. Quant aux jeunes gens et aux guerriers d'une classe inférieure, ils se tinrent en cercle par derrière. Juste au centre de la cabane, au-dessous d'une ouverture par laquelle filtrait la clarté d'une ou deux étoiles, était Uncas, debout, dans une attitude de calme et de majesté. Son air fier n'échappa point à la pénétration de ses vainqueurs, et il portait sur lui de fréquents regards où l'on lisait, à travers une inflexibilité de parti pris, l'admiration que leur inspirait son courage. Il n'en était pas de même de l'individu qui était auprès du jeune Mohican avant que celui-ci eût commencé la redoutable épreuve où avait triomphé son agilité. Bien loin de se joindre à ceux qui le poursuivaient, il était demeuré, au milieu de la confusion générale, immobile comme une statue, courbé sous l'humiliation de la honte. Aucune main n'avait été tendue pour lui faire accueil, et nul n'avait daigné prendre la peine de surveiller ses mouvements. S'il était entré dans la loge, c'était comme poussé par une impulsion fatale à laquelle il cédait sans résistance. Hayward profita de la première occasion pour le regarder en face, bien qu'il eût eu une appréhension secrète de reconnaître encore un visage ami. Mais ses traits lui étaient inconnus, et chose inexplicable, il lui parut porter toutes les marques distinctives d'un guerrier Huron. Cependant, il ne se mêla point aux guerriers de sa tribu et s'assit à part, solitaire au milieu de la foule, dans une posture abjecte et craintive, comme s'il eût voulu occuper le moins d'espace possible. Quand chacun eut pris la place qui lui était assignée, il se fit un profond silence. Alors le chef aux cheveux blancs, dont nous avons déjà parlé, adressa la parole au captif en se servant de la langue des Lenni-Lenape ou Delawares.
« Quoique tu sois d'une nation de femmes, dit-il, tu as agi en homme, Delawares. Je te donnerai volontiers à manger, mais qui mange avec un Huron doit devenir son ami. Repose en paix jusqu'au soleil du matin, alors tu entendras nos paroles. »
« J'ai jeûné 7 jours et 7 nuits d'été à la piste des Hurons, » répondit froidement Uncas. « Les enfants des Lenapes savent marcher dans le sentier de la justice sans s'arrêter pour manger. »«
Deux de mes jeunes hommes sont à la poursuite de ton compagnon, »
reprit l'autre sans paraître faire attention à la bravade de son prisonnier.
« Quand ils seront de retour, alors nos sages te diront si tu dois vivre ou mourir. Un Huron n'a-t-il point d'oreilles ?»
s'écria Uncas d'un air de mépris.
Depuis qu'il est votre captif, le Delaware a 2 fois entendu la détonation d'un fusil qui lui est connu. Vos jeunes hommes ne reviendront jamais.
Un sombre silence suivit cette allusion pleine d'assurance à l'adresse d'œil de faucon. Duncan, qui l'a compris, se pencha en avant pour tâcher de voir quel effet ses paroles avaient produit sur la physionomie des assistants. Quant au chef, il se contenta de répondre.
« Si les Lenapes sont si adroits, comment se fait-il qu'un de leurs guerriers les plus braves soit ici ?
Il a poursuivi un lâche qui fuyait, et il est tombé dans un piège. Le castor est fin, on le prend cependant. » En parlant ainsi, Uncas montra du doigt le Huron solitaire, mais sans daigner s'occuper davantage d'un être si abject. Sa réponse et l'air dont il l'avait prononcée produisirent une sensation profonde. Tous les yeux se dirigèrent lentement vers l'individu que ce geste si simple venait d'indiquer. Et un murmure sourd et menaçant s'éleva parmi l'auditoire. Ce bruit de sinistre présage se répandit jusque dans la foule de femmes et d'enfants entassés pêle-mêle à la porte et dont les traits annonçaient une avide curiosité. Cependant, les chefs les plus âgés échangeaient leurs sentiments dans un court colloque, accentué de gestes énergiques, et bientôt suivi d'un long et imposant silence. Les Hurons placés en arrière se dressaient sur la pointe des pieds afin de mieux voir le coupable, et celui-ci, entraîné par une émotion plus vive que celle de sa propre honte, releva la tête pour jeter sur ses juges un regard effaré. Passant devant le prisonnier, le chef aux cheveux blancs s'avança vers le Huron solitaire et resta debout en face de lui. Aussitôt, la vieille sorcière qui avait accablé le Mohican d'injures pénétra dans le cercle en exécutant une sorte de danse. Elle tenait à la main la torche qui éclairait la cabane et marmottait des paroles inintelligibles qu'on pouvait prendre pour une incantation. Quoique personne ne l'eût appelée, sa démarche ne parut surprendre aucun des assistants. S'approchant alors d'Uncas, elle tint la torche de manière à laisser voir sur son visage, éclairé de ses rouges clartés, le plus faible tressaillement qui pourrait le trahir. Le jeune chef demeura impassible dans sa fermeté hautaine, indifférent à l'examen de la mégère, l'œil fixe et plongé dans les champs de l'espace. Satisfaite de son examen, elle le quitta en manifestant une légère expression de plaisir et alla faire subir la même épreuve à son coupable compatriote. Le jeune Huron était peint de son tatouage de guerre et son corps bien proportionné était à peine caché par ses vêtements. Sous les feux de la torche, il se détachait en pleine lumière et Duncan détourna les yeux avec dégoût en le voyant agiter des convulsions d'une terreur irrésistible. À ce spectacle douloureux, la vieille commençait déjà à pousser une sorte de lamentation sourde quand le chef étendit la main et l'écarta doucement.
« Roseau pliant !» dit-il en adressant la parole au jeune homme par son nom et dans sa langue. Quoique le grand esprit t'ait fait agréable à la vue, il eût mieux valu pour toi que tu ne fusses pas né. Ta langue est bruyante au village et muette à la bataille. Nul de mes jeunes hommes n'enfonce plus avant le tomahawk dans le poteau de guerre. Nul n'en frappe plus faiblement les Anglais. L'ennemi connaît la forme de ton dos, mais il n'a jamais vu la couleur de tes yeux. Trois fois il t'a appelé au combat. Trois fois tu as oublié de répondre. Ton nom ne sera plus prononcé dans ta tribu. Il est déjà oublié. »
Tandis que le chef prononçait lentement ce discours, en faisant une pause après chaque phrase, le coupable releva la tête par déférence pour l'autorité et l'âge de celui qui parlait. La honte, l'horreur et l'orgueil se peignaient tour à tour sur sa physionomie expressive. Son œil, contracté par des angoisses intérieures, se ranima soudain et se fixa sur les guerriers dont l'opinion allait faire son déshonneur ou sa gloire. Cette dernière pensée l'emporta. Il se leva et, découvrant sa poitrine, regarda sans trembler le couteau affilé qui brillait déjà dans la main de son juge inexorable. Au moment où l'arme fatale pénétra lentement jusqu'à son cœur, on le vit même sourire, comme s'il eût éprouvé de la joie à trouver la mort moins terrible qu'il ne s'y était attendu. Et il tomba sans vie au pied d'Uncas, toujours inébranlable. La vieille poussa un hurlement plaintif, jeta la torche par terre, et la loge fut plongée dans les ténèbres. L'assemblée, saisie d'épouvante, s'enfuit comme une troupe d'esprits troublés. Et Duncan crut être resté seul avec le corps palpitant de la victime d'un jugement indien.